bon jouir, c'est Agathe. Ça y est, le dimanche arrive à sa fin. C'est quand même toujours un peu le blues, hein, ces dimanches soirs. On se demande bien qui a pu inventer ça. Bon, réjouissez-vous, vous avez encore peut-être une heure devant vous, une heure à vous consacrer, une heure pour réfléchir et nous réunir ensemble, eh bien, pour nous donner un peu de plaisir, ou en tout cas, faire le point sur l'état de notre plaisir aujourd'hui. Mais oui, ça fait du bien de finir peut-être votre journée, votre semaine, sur ces pensées, plutôt que de penser déjà à tout ce que vous allez devoir faire demain. Laissez tomber, vous verrez ça au réveil demain matin. Bon jouir, c'est une heure rien que pour vous sur les questions de sexualité et du plaisir. Et puis, ben, après 1h30 de métal de tout poil, il est désormais temps de se mettre tous à poil sur Canal B.
Bon jouir
sur Canal B. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire. Non, pas de celle qu'on raconte aux enfants avant de les mettre au lit, ou du moins, pas avant qu'il ou elle soit en âge de voter. Et je parle pas d'élire leur délégué de classe, hein. Donc, il était une fois une timide et belle jeune fille qui vivait dans un pays très loin du nôtre, de l'autre côté d'un océan profond et mystérieux. Elle n'avait pas un physique particulièrement époustouflant, non, elle était une fraîche, banale jeune femme. Amoureuse. Ah oui, parce que dans cette histoire, vous allez voir, on commence par le happy end. Elle avait rencontré un homme, s'était mariée avec lui et vivait le parfait amour. Je vois, hein, à vos yeux, à vos oreilles, que vous espérez une suite plus palpitante, hein. Car bon, une femme mariée à un homme et qui se satisfait de cette situation, c'est pas tellement dans l'air du temps, ni très pertinent peut-être, en cet après 8 mars, qui était donc la journée internationale des droits de la femme. Quoique, on peut aussi être très heureuse en ménage, heureusement. Bon, je continue. Pendant un temps, cet homme satisfaisait à tous ses besoins, et même davantage. Ses affaires marchaient bien, l'argent rentrait, bref, le bonheur. Mais, il fallait s'y attendre, cela ne durera pas. Alors cet homme, sans doute attablé devant une énième assiette de coquillettes jambon, leva la tête vers sa femme, but une lampée de bière tiède sans la quitter des yeux, et eut la révélation, puisqu'il ne voyait vraiment pas quel commerce remettre sur pied, il allait tirer profit de ce qu'il avait de plus juteux, sa femme. Hein, vieille comme le monde cette histoire, je vous l'accorde, mais indémodable encore en 2022. Donc, le mari présente sa femme à des amis, il l'introduit dans des milieux et la place en bonne position pour rencontrer les bonnes personnes. Vous voyez où je veux en venir. Car lui, il sait. Oui, il sait quel est le grand talent de sa femme. Il connaît sur le bout des doigts la profondeur de son âme. Il lui fait ainsi rencontrer un homme avec un nom aux consonances italiennes. Et cet homme, après avoir découvert le talent de cette femme, en fit la jeune femme la plus connue dans le monde entier. Linda Lovelace était née. Ça vous dit quelque chose? Oui, Linda Lovelace, la première star du porno avec le film « Gorge profonde ». Son talent, bien sûr, dont elle partagera ensuite la technique. Succès planétaire et révolution de la place du porno dans les sociétés de l'époque. On pouvait dire à la voisine, Madame Michu, de garder le môme car on allait voir Deep Throat au cinéma sans gêne aucune. Et c'est aussi le moment où le clitoris est devenu une star. Il se trouve dans le fond de sa gorge dans le film. Et où l'on commence à parler du plaisir féminin. Génial! Fantastique! Arrivé à cet endroit de l'histoire, on pourrait dire... Super, tout est bien qui finit bien. Sauf que pas du tout. La décennie suivante, dans les années 80, cette même Linda revient sur le devant de la scène pour présenter le livre qu'elle vient d'écrire. Et dans ce livre, elle raconte les violences qu'elle subissait de son mari pour la forcer à tourner. Et tout d'un coup, celle qui faisait fantasmer le monde entier devenait une victime. Et là, ben, bizarrement, ça collait plus du tout, si vous me passez l'expression. Comment ça, une victime? Ah ben, t'avais l'air de prendre du plaisir pourtant, hein? Fallait pas choisir ce job, tu l'as bien cherché. Et puis, si c'était si terrible, pourquoi que t'en as parlé à personne? Linda Lovelace ne fut jamais réellement écoutée et elle mourut à 53 ans, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, j'en suis pas si sûre. Car en 2022, 50 ans précisément après la sortie du film, l'intégrité des femmes sexuelles, c'est-à-dire celles qui expriment leurs désirs, est encore remise en question. Aujourd'hui, oui, on peut encore entendre « elle l'avait bien cherché » s'il arrive quelque chose de grave. Et si c'est une travailleuse du sexe, c'est encore pire. Alors, où en est l'égalité homme-femme en matière de sexualité? J'ai bien cherché, et je peux vous affirmer que j'ai pas trouvé. Bien sûr, on peut parler de davantage d'émancipation féminine. On peut citer plein de femmes en exemple qui font avancer les choses par leur militantisme, Ovidie, Olympe de Gé, ou bien par leur pédagogie, Maya Mazorette. On peut parler de cette révolution du consentement. Mais pour que cela fonctionne, il faut 1. Savoir à quoi l'on consent, et 2. Savoir que le consentement ne garantit pas le plaisir, et 3. Il faut être entendu. Et là, on en revient à Linda Lovelace. Attention aussi aux injonctions au plaisir et aux « connais ton clito toi-même » qui peuvent aussi être compliquées pour certaines femmes. Alors si je devais effectivement raconter cette histoire de jeunes adultes, je finirais de la façon suivante. À mon sens, les femmes ont la double charge de parler de sexualité. D'abord, pour ne pas laisser qu'une parole masculine sur leur plaisir et sur leur désir. Ensuite, pour combler le silence. En matière de sexualité, le silence est néfaste, dévastateur. Comme si, par son obscurité, il autorisait les pires actes. Alors il faut décomplexer les femmes, les libérer de leurs préjugés. Oui, elles peuvent aussi assumer leur libido sans passer pour des salopes. Oui, elles peuvent s'habiller selon leurs désirs et non pas pour plaire aux hommes ou satisfaire leur regard. Oui, elles peuvent avoir accès à du contenu pornographique centré sur leur plaisir, sur le plaisir féminin. Oui, elles peuvent attendre plus d'un rapport sexuel qu'un missionnaire qui prend fin dès la dernière goutte de monsieur. Oui, elles peuvent faire appel à des travailleuses ou travailleurs du sexe pour se redonner confiance, se reconstruire ou bien juste pour le kiff. La liste des oui pourrait être encore longue, mais je crois que l'essentiel à retenir dans toute cette histoire, c'est que le sexe est à inventer avec chaque partenaire et qu'en la matière, ce n'est plus l'égalité qui compte déjà, mais le partage. Commençons déjà par là et on refait le point l'année prochaine peut-être. Et puis je voudrais finir cet édito aussi par un petit message, une porte ouverte à la réflexion. Il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas d'égalité. Alors oui, messieurs, vous pouvez aimer les femmes sans les posséder.
De leur dire à quel point ils m'auraient fait jouir. Pourquoi faudrait-il que je passe encore une fois pour la chaudasse? Pourquoi le mec serait pas fautif? C'est lui qui dégrafe les soutifs. Pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudasses? R, T, T ou hier qu'on me demande t'avais les tétés à l'air. C'est ça, tu cherchais à te vendre.
Tu cherches.
cherchais, tu cherchais. Tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Jonas, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Ah, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Jonas, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Ah, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Jonas, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Ah, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais. Demande ta vélé, t'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te vendre. Allez, y'a avec qui hier qu'on me demande ta vélé, t'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te faire prendre. Oui, tu cherchais à te vendre. Tu cherchais à te faire prendre. Oui, tu cherchais à te vendre. Tu cherchais à te faire prendre. Oui, tu cherchais.
Cette chanson de Kalika, qui est donc intitulée Chaudas, j'aimerais la dédicacer à Julien, voilà, de la part d'Agathe Chouchou. Bon, alors Kalika, elle est top, je trouve que c'est vraiment très très chouette, sa musique, ça fait du bien, complètement punchy et très engagée et en même temps quand même très drôle. Voilà, elle sera en concert à Rennes, d'ailleurs au Festival Mythos, le 8 avril, dans une soirée qui va réunir Peter Doherty avec Frédéric Lowe et Malik Djoudi. Vraiment, je crois que ça va dépoter en concert.
Bonjour.
Sur Canal B. Il est maintenant temps de laisser la place à Benjamin Bechler avec la première partie de sa librairie Foutraque. Benjamin est toujours plongé dans la lecture, on ne le sort pas des livres, de La remplaçante de Guillaume Perrotte. Et voici donc la suite de l'histoire. Oh.
Alice est maintenant allongée au centre de notre lit, ou plutôt de son ancien lit. Je me tiens debout près d'une petite caméra fixée sur trépied, objectif braqué sur elle. Depuis le temps que je rêvais de la filmer ailleurs que sur une scène ou en backstage, je suis nu et toujours en érection. Elle est en nuisette et se titille le bout des seins avec provocation, telle une pro de l'exhibitionnisme. Nous sommes tous les deux plus calmes qu'il y a 10 minutes. C'est notre première vraie scène de ménage en 3 ans. La dernière sans doute.
I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane.
Tom Waits en fond sonore. J'ai besoin qu'elle me raconte une histoire rose, avant de disparaître définitivement de mon existence. Elle prend plaisir à me rappeler le temps qui s'écoule. Avec combien d'hommes as-tu réellement trompé? J'exige de toi la vérité. D'accord. Quelques secondes de réflexion sans cesser d'étirer ses tétons. 4, en comptant le métis. Plus quelques extras consommés dans l'urgence la plus totale après certains de mes concerts les plus fiévreux, ajoute-t-elle avec taquinerie. Elle me révèle enfin le chiffre exhaustif des délits sexuels effectués à ma barbe. Pas mal pour une artiste supposée être la plus sage des épouses, mais chiffre un peu timide pour une chanteuse aussi populaire et désirée qu'elle. Parle-moi de tes 4 amants. D'accord. Le premier m'a appris l'art de la fellation. Le second, celui de la domination. Le troisième, celui de la soumission. Et le quatrième, celui de l'intromission anale. Julius, lui-même en personne, confirme-t-elle avec raillerie, tout en se touchant l'anus. Je vais encore devoir refouler mon éjaculation. Accessoires, j'ai besoin d'accessoires, exige-t-elle ensuite. Je lui fais passer un sac noir posé au pied de la caméra. Elle l'ouvre, regarde à l'intérieur et s'esclave de surprise. L'ancienne Alice aurait hurlé d'horreur en découvrant la demi-douzaine de God achetée ce soir lors de ma virée solitaire au sex shop. Elle vide le sac sur le lit où s'entassent des sexes en latex de différents calibres, dont un mastar noir de 28 sur 6. Des boules de geisha, un martinet, un anopénien, des menottes, des gels intimes. Elle ne sait plus où donner de la tête. De quoi équiper toute une armée de libertins très imaginatifs, en route pour une soirée sadomaso. Je ne me lasse pas d'admirer son air émerveillé via le retour vidéo, ses pas de doigts autour des yeux, ses dents étincelantes, ses lèvres faites pour l'amour. Jusqu'au moment où je revois malgré moi, comme dans un flashback, sa tête d'enterrement le soir de notre ultime Saint-Valentin, lorsqu'elle a découvert le gros vibro, si réaliste d'un point de vue anatomique, que j'avais acheté chez l'Asiatique histoire de rire un peu et jouir beaucoup. Où suis-je censé me mettre cette monstrueuse chose en plastique ? Dans le cul ? Voilà ce qu'elle m'avait demandé avec mépris, tout en tenant l'objet du bout des doigts un peu comme une énorme courgette en voie de décomposition. La chose a fini le soir même à la poubelle. C'est une ceinture de chasteté que j'aurais dû lui offrir ce soir-là, sauf que cette Alice-là est morte et enterrée. Alléluia ! L'énergie de l'autre Alice est celle d'une centrale électrique. Elle jubile, entourée de ses objets jouissifs, et m'annonce qu'elle a aussi un cadeau pour moi. Elle me demande de fermer les yeux et je lui obéis à mon tour. Quand elle m'autorise de les rouvrir, elle m'exhibe un jouet à mordiller qui représente un pied féminin aux ongles carmin. « J'ai trouvé cet objet au rayon animalerie de mon supermarché », m'apprend-elle. Cet hommage à mon fétichisme m'émeut au plus haut point. L'ancienne Alice n'aurait sans doute pas eu assez de devis pour acquérir un tel recul vis-à-vis d'une perversion aussi innocente. Il n'en faut pas davantage pour que notre excitation reparte au quart de tour. Elle jette le pied en latex à l'autre bout de la pièce et me somme d'aller le chercher. Je me précipite, attrape l'objet avec les dents et le dépose à ses pieds sur le lit. Elle m'accorde alors la récompense suprême de ses petons soignés, m'autorise à les sentir, les embrasser, les lécher. Je frotte ma queue contre sa voûte plantaire et fais pleurer mon méa entre ses orteils, jusqu'à ce qu'elle m'intime de retourner sagement à ma place hors du lit près de la caméra. Elle a encore son histoire à me raconter et l'heure tourne. « Plus que 30 minutes, me prévient-elle d'ailleurs, non sans une certaine perfidie. Tic-tac, 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 ainsi me parle-t-elle du premier amant qu'elle a eu et qui lui a appris l'art consommé de la fellation, seulement quelques semaines après notre emménagement. Un musicien avec qui elle a tourné en province sur quelques dates. Elle joint l'acte à la parole, m'embrasse le gland, le darde de la pointe de sa langue. Son autre main s'occupe de mes bourses, qui ne mettent pas 10 secondes à retrouver toute leur vigueur. Elle me raconte ensuite que ce musicien bisexuel lui a affirmé, suprême compliment, qu'elle suçait aussi bien qu'un mec. Nous échangeons un clin d'œil équivoque. Elle passe à son deuxième amant, celui qui lui a appris l'art de la domination. Un soumis mélomane qui aurait travaillé quelque temps comme assistant au sein du label. Concevable. Alors que j'ai le réflexe de fouiller ma mémoire pour retrouver le visage de ce gars, elle me conseille de ne pas trop me triturer les méninges, étant donné le peu de temps qu'il nous reste.
Sur Canal B. Je suis une femme. Je suis une femme épuisée. Je suis une femme épuisée de porter les générations futures pour vos guerres. Je suis une femme fatiguée de marcher le long des routes avec vos enfants. Je suis une femme dégoûtée de leur mentir pour leur conserver les espoirs d'un avenir. Je suis une femme à la voix cassée à force de couvrir vos perpétuels champs de mort. Je suis une femme blessée par votre lâcheté. Je suis une femme consternée par votre besoin de puissance et de domination. Je suis une femme lassée de vos massacres. Je suis une femme, un animal, une forêt agressée par vos machines fumantes. Je suis tous ces êtres que vos religions piétinent. Je suis tout ce que vous détruisez. Mais je suis une femme source qui reconstruira toujours après vous. Je suis une femme qui ne demande pas à être votre égale. Merci bien. Mais je suis une femme qui qui rêve la fin de toute domination. Bon, c'est un texte que j'ai écrit cette semaine, évidemment emprunt de l'actualité sordide que nous vivons en ce moment, et aussi parce que, avec cette journée internationale des droits de la femme, tous ces combats pour l'égalité femmes-hommes, ça m'a toujours interrogée et ça me pose toujours cette question de savoir si c'est l'égalité qui est nécessaire et qui est à rechercher, ou bien si c'est simplement, et c'est quand même énorme, la fin de toute domination. Voilà, alors je vous livre là mes interrogations personnelles. Je ne suis pas allée encore au bout de tout ça, mais en tout cas, il me semble, moi, que si l'on veut effectivement atteindre une égalité dans la société française aujourd'hui entre les femmes et les hommes, eh bien cela ne peut arriver, bien sûr, qu'avec la fin de la domination patriarcale. Alors, pour recentrer la question de l'égalité femmes-hommes sur les enjeux de la sexualité, puisque c'est quand même ce qui nous réunit tous les dimanches soirs, eh bien, je voulais vous lire un extrait d'un livre qui a quand même été ma bible au moment de la naissance de Bon Jouir, puisque ce livre, c'est « Jouir, enquête de l'orgasme féminin », écrit par Sarah Barmack et qui était publié aux éditions Zone il y a quelque temps déjà, c'était en 2019. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, eh bien, Sarah Barmack finit sa recherche, son travail, son exploration, en fait, du plaisir féminin par cette question: le plaisir est-il nécessaire? Est-ce que l'égalité sexuelle se limite vraiment à l'égalité face à la jouissance? Qu'est-ce qui se cache derrière ce droit au plaisir auquel nous aspirons? Je lis ces mots. L'hiver dernier, je me trouvais à dîner en compagnie de femmes que je venais de rencontrer. Avec ma moitié, nous logions chez une amie qui habite dans le Colorado, dans la Vail Valley, un paysage truffé de magasins de marijuana et serti de montagnes recouvertes d'une belle couverture neigeuse, si épaisse qu'on aurait dit du glaçage blanc sur un gâteau de mariage. C'est une région plutôt progressiste des États-Unis. Nos hôtes avaient invité des amies, toutes des femmes de la génération du baby-boom, politiquement engagées et physiquement très en forme. Le ski de fond, ça fait des merveilles. Au programme, séance de méditation et dîner à la bonne franquette, où chacun ramène un petit quelque chose à manger ou à boire. Nous sirotions du vin en discutant de Donald Trump, les primaires approchaient en Iowa et toutes les invitées, de la plus républicaine à la plus démocrate, étaient unies dans leur dégoût profond à l'égard de cet homme, quand petit à petit, la discussion a glissé vers ma vie professionnelle. J'ai décrit ce livre en quelques mots. À l'époque, je finissais de l'écrire. J'ai parlé du fait que le sexe, tel qu'il est pratiqué de nos jours, ne satisfait probablement pas les besoins des femmes, puis j'ai évoqué les expérimentations auxquelles s'adonnent de nombreuses jeunes femmes, ainsi que cette inspiration qu'elles retirent du féminisme des années 1970. Tout le monde m'a écouté poliment, puis il y a eu un silence. « Excusez-moi », a dit celle qui politiquement se situait le plus à gauche. « C'est pas un peu des problèmes de riches, tout ça ?» Des petits rires d'approbation se sont élevés tout autour de la table. Je veux dire, il y a des gens, des femmes, qui ont de vrais problèmes. Partout dans le monde, il y a des femmes qui subissent des guerres, des viols et toutes sortes d'agressions. Fière représentante de la génération Y, je venais de me faire remettre à ma place en deux phrases par une femme de l'âge de mes parents. Ça piquait. Je me suis sentie réprimandée comme une enfant. Le rouge m'est monté aux joues et j'ai commencé à balbutier en voulant me justifier. Cependant, une partie de moi se réjouissait qu'elle ait dit exactement ce qu'elle pensait. C'est d'ailleurs une réaction parfaitement naturelle. À bien des égards, il n'y a rien de plus nombriliste, rien qui constitue une démonstration aussi flagrante que de tout un éventail de privilèges que le sujet de ce livre. Alors maintenant, on se caresse le clito et on organise des teufs où on se fout à poil pour se branler tout ensemble. Ok, si vous voulez. Après tout, la sexualité des femmes a été réprimée pendant des siècles et des siècles. Mais il en va de même pour tous les autres aspects de la féminité. Alors non, en effet, la priorité des priorités, ce n'est pas de se battre pour que les femmes jouissent aussi souvent et aussi agréablement que les hommes. C'est plutôt au choix, l'égalité des revenus, l'abolition des violences faites aux femmes, l'accès à l'avortement légal et sécurisé, les allocations familiales, la création de crèches dans tout le pays, la fin des discriminations envers les lesbiennes, les femmes racisées et les femmes trans, et le secours qu'il faut porter à toutes les femmes et toutes les filles de ce monde à qui l'on refuse les plus basiques des droits humains. Tout cela est très vrai. Mais l'existence de besoins vitaux ne doit pas occulter ceux qui le sont moins. Le droit de chercher son propre bonheur est bien plus soudé aux autres droits qu'on ne le pense. Tous ces droits sont éléments d'une même totalité. La plupart des droits pour lesquels les féministes se battent sont liés à une forme de liberté qui se définit contre quelque chose, par rapport à quelque chose, par rapport à la violence, au harcèlement, aux discriminations, à une grossesse non désirée, à une injustice salariale ou à une inégalité face à l'éducation. En revanche, quand il est question de sexe, il s'agit bien davantage d'une liberté d'agir. On parle de la liberté de croquer la vie à pleines dents, de profiter pleinement de ce corps dans lequel on a vu le jour, de ressentir de la joie, de panser les blessures amères de la vie avec le doux miel de la sensualité. Le sexe se limite-t-il au plaisir? Ou bien peut-on au contraire en retirer bien plus? Du bien-être, par exemple. Et s'agit-il d'un bien accessoire ou d'un élément à part entière de la santé humaine? La santé sexuelle ne se limite pas à la simple satisfaction sexuelle. Une bonne santé sexuelle permet de se sentir un être humain complet. C'est le sentiment que chaque élément de votre corps et de votre personnalité a le droit d'exister. « Je me sens incomplète » est une phrase qui revient régulièrement dans la bouche des participantes aux premières séances de pleine conscience de Laurie Brotteau. « Je l'entends tout le temps », dit-elle. Voici ma théorie. Les hommes puisent tout ce que bon leur semble dans une source qui leur est réservée et qu'ils considèrent comme allant de soi. L'existence même de cette source est ce qui leur permet de bomber le torse lorsqu'ils pénètrent dans une pièce. Parmi les choses que l'on trouve dedans, il y a le droit d'avoir une sexualité sans que cela constitue un aspect controversé de leur existence. Il est difficile d'évaluer les innombrables bénéfices psychologiques de cette liberté-là. Quel sentiment de force intérieure retire-t-on du fait de savoir que l'on peut choisir d'avoir un rapport sexuel tout en étant certain que, dès lors que c'est entre adultes consentants et que personne n'en sortira trompé ou blessé, personne ne s'en servira contre vous. Le simple fait que vous aimiez le sexe et que cela se sache ne nuira pas à votre carrière, n'éveillera pas de regard soupçonneux à votre égard et n'entamera nullement votre respectabilité. Il y a peu de chances que votre ex rende public des photos de vous tout nu pour vous démolir. Pour la plupart des hommes, c'est même l'effet inverse. Un homme perçu comme un tombeur est fortement valorisé. C'est quelque chose qui lui fait du bien et qui le rend fier. Ça lui donne de bonnes vibes et lui apporte l'approbation de ses amis. Si cela se savait au travail, cela ne l'empêcherait nullement d'obtenir une promotion et même, il serait bien vu. C'est du gagnant-gagnant. Son besoin de sexe et son besoin de réussite sont symbiotiques, ils s'imbriquent et se nourrissent ensemble. Pour beaucoup de femmes, les choses ne se passent pas du tout de la même manière. Le fait d'être portée sur la chose oblige une femme à 1000 précautions, comme un secret national. Les personnes auxquelles vous le confiez doivent être triées sur le volet, sans quoi vous risquez que l'on dise du mal de vous, dans votre dos, et que l'on sape votre réputation. Pour cette moitié-là de l'humanité, les élans les plus naturels sont en contradiction totale avec leurs besoins de sécurité, de réussite et d'acceptation sociale. Cela concerne même plus de la moitié de l'humanité, à vrai dire, car on peut inclure dans ce groupe-là toutes les personnes que l'on rabaisse ou que l'on humilie pour leur sexualité, à savoir les femmes racisées subissant une double discrimination liée à leur sexe d'une part et à leur couleur de peau d'autre part, et les populations LGBTQIA+, hommes inclus. Tout cela, on leur demande tous les jours de choisir entre leur vie de sexe, leur envie de sexe et leur sécurité. Et lorsque nous rabaissons les femmes du fait de leur sexualité, nous les forçons à se diviser en deux. Les personnes désirantes qu'elles sont doivent dans le même temps nier ce désir. Une partie d'elles s'exprime, une autre partie d'elles s'efface. Cette injustice envers les femmes, dans un carcan qui ne leur laisse d'autre choix que de mentir, d'affabuler, de dissimuler leur nature véritable et d'apprendre à ne le faire que trop bien. Dans Vaijana, Naomi Wolf avance que la créativité des femmes, leur imagination et leur capacité à sortir de chez elles et à agir avec audace sont assez littéralement dopées par le sexe, et plus particulièrement par du sexe de qualité qui tient compte de leur plaisir. Le genre de sexe dont on sort épuisé, le sourire béat, avec le sentiment d'être apprécié et la sensation d'avoir bien baisé. Afin d'appuyer sa théorie inventive et somme toute assez convaincante, elle cite les correspondances privées de certaines artistes, comme Georgia O'Keeffe et Edith Wharton, et remarque que leurs plus grandes périodes de créativité et d'accomplissement sont aussi celles qui ont été le plus érotiquement chargées, celles où elles ont entretenu des liaisons torrides. Selon elle, le sexe les aidait à développer leur créativité et en retour, leur créativité améliorait leur sexualité. C'était une symbiose. Dire que le désir d'être sexuellement comblé n'est pas très important, ou même que cela nous empêche de nous attaquer au véritable problème, c'est porter un jugement destructeur. Cela soumet les femmes souffrant de dysfonctionnement sexuel à une double contrainte. Les femmes aux prises avec une baisse de libido, des douleurs pendant les rapports ou des troubles de l'excitation souffrent doublement. Elles souffrent du sentiment de ne plus fonctionner en tant que femme, mais aussi de l'invisibilité de cette souffrance-là. Elles se sentent coupables de chercher à s'en sortir. Et ce n'est pas quelque chose dont elles peuvent discuter librement parce que leur problème est perçu comme frivole, alors que justement, la seule manière de résoudre ce problème est d'en parler, et d'en parler encore et encore. Pendant ce temps-là, en Amérique du Nord, de longues heures de prime time sont consacrées à la vente de médicaments pour compenser les dysfonctionnements érectiles des hommes. Si nous considérons désormais que le consentement se fonde sur le désir et la volonté d'une femme, faut-il que l'éducation sexuelle enseigne aux femmes à dire oui de manière enthousiaste ? Les femmes ont-elles le droit d'apprendre à cultiver les aspects positifs de la sexualité et pas seulement à empêcher les potentielles conséquences négatives, grossesse, MST et agression sexuelle ? La réponse est oui, parce qu'on peut difficilement attendre des filles, sur les campus universitaires ou ailleurs, qu'elles soient capables de déterminer avec certitude et précision quand elles ont envie de sexe, si on ne les encourage pas dans un premier temps à étudier ce qui les excite. En l'absence d'une connaissance nette de ce qui leur fait du bien, le comportement par défaut s'est longtemps résumé pour beaucoup de filles à simplement accepter les exigences sexuelles des garçons, déduisant de ce qu'elles vivaient et entendaient autour d'elles que bon, le sexe, ça doit être ça. Connaître les infinies possibilités que nous offre le sexe, découvrir ce qui nous attire et quel type de toucher, de stimulation et quel degré de pression nous fait du bien, voilà des outils sans lesquels il nous est bien plus difficile de déterminer quand un geste est déplacé, trop brutal, trop rapide ou tout bonnement douloureux. Si on ne les encourage pas à explorer elles-mêmes leurs propres plaisirs et leurs fantasmes et à développer des préférences claires le plus tôt possible, disons à la préadolescence, les femmes auront bien du mal à déclarer haut et fort ce fameux « oui ». Oui, c'est de cela que j'ai envie lors de leur première relation sexuelle. Ce consentement enthousiaste que doivent attendre désormais les personnes désireuses de s'engager dans un rapport sexuel, comme le stipulent certaines lois. Comme l'a écrit la féministe Luce Irigaray dans sa méditation sur l'amour, être deux, oui et non ne doivent plus être deux pôles isolés l'un de l'autre. Il faut qu'ils se rencontrent et qu'ils entrent en relation. Les femmes vivent le sexe comme un élément de leur vie dans son ensemble, et pas comme un ou plusieurs actes isolés. C'est pour cette raison qu'elles peuvent avoir très envie de sexe pendant une journée ou pendant une année, sans raison apparente, et soudain plus vraiment. Le sexe est lié à d'autres versants de leur existence, par exemple au stress qu'elles subissent. Plus le temps passe, plus nous sommes débordés, plus on nous demande de tout faire, de préférence en même temps. Dans un tel contexte, les troubles de la sexualité, c'est probablement le corps qui tire la sonnette d'alarme. Très souvent, il n'y a rien qui cloche chez les femmes qui n'arrivent pas à jouir, explique Anita Bunninger, conseillère en santé holistique. C'est juste qu'elles sont tendues et ce n'est pas très étonnant qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Le sexe ne se résume pas à l'acte sexuel. Votre vie sexuelle dépend de la manière dont vous vivez votre vie tout entière. Si vous êtes surexposé au stress et que vous n'avez jamais le temps de vous poser, votre corps ne sera pas sur la bonne longueur d'onde pour faire l'amour. Le sexe, c'est la vie dans son ensemble, poursuit-elle. C'est notre vie, en tant qu'amant, amante. Ce n'est pas un acte, c'est un domaine de la vie, un espace, un état. Et je pense que cela, réhabiliter le sexe pour ce qu'il est, une culture plus féminine peut y arriver. Pour toutes les femmes qui la vivent, cette impulsion qui les amène à transformer leur sexualité en profondeur prend racine dans le même terreau que d'autres tendances holistiques, comme le yoga, la slow food ou les médecines alternatives. C'est sans doute une autre manière de se libérer de ce mode de vie qui est le nôtre. Ce mode de vie machinal, écervelé, isolé et surstimulé que personne ne semble choisir mais qui, lui, nous a bel et bien un excès. Et si cette libération ne dure que le temps dont nous avons besoin pour nous oublier jusqu'à la jouissance, eh bien, soit. C'est une tentative de desserrer les liens qui nous retiennent à un moi limité, comme des amarres. Une tentative de devenir plus que ce que nous sommes. Et à cet égard, le fait que la sexualité résiste à toute simplification devrait avoir sur nous l'effet d'un coup de semonce. Le sexe est bien plus mystérieux que nous faisons semblant de le croire, et bien plus chargé de sens. Et ce mystère constitue l'un de ses meilleurs aspects. Pourquoi dépeindre le sexe comme une pâle caricature de ce qu'il est profondément, à savoir l'opportunité de se connaître soi-même, de se rencontrer soi-même, véritablement. C'était donc les mots, et les mots vraiment puissants et tellement justes et pertinents, de Sarah Barmack dans son ouvrage « Jouir, en quête de l'orgasme féminin », publié aux éditions Zone.
Jouir.
Sur Canal B. Eh bien oui, puisque nous parlions en cette amorce d'émission des années 70 avec l'émergence du porno et notamment Gorge Profonde, j'avais envie aussi de mettre un petit peu de musique de l'époque, on peut dire. Bon, enfin, en tout cas, c'était Donna Summer que vous avez bien reconnu avec son morceau I Feel Love, mais cette fois, il était remixé par The Pitchfork 500. Voilà.
Ah! Bienvenue au deuxième Love and Sex Festival. Enfin, après 3 années, nous sommes de retour. Peut-être pas tout à fait dans la forme qu'on aurait souhaité, mais nous sommes de retour pour vous retrouver en ligne avec toute la Love Team. Je vous les présente ce soir. Nous avons Spicy Christiana. Nous avons Tréville, la femme fontaine. Nous avons Bleu, la diseuse de bonnes aventures sexuelles. Nous avons notre duo de choc, Love Sam and Sweet Marvin. À la technique, nous avons ce soir un invité exceptionnel. Il nous rend service, vous n'imaginez pas à quel point on compte sur lui. Et on espère vraiment que tout ira bien. C'est Magic D. On a été sérieux une minute. On s'est posé la question, pourquoi faire un festival qui parle d'amour et qui parle de sexualité alors que c'est la guerre? Ben, on y a réfléchi, on s'est regardé et on s'est dit « Make love, not war ». Soyons sérieux. Avec un peu plus d'amour, un peu plus de liberté, un peu plus de respect, sans doute que le monde serait beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on vous a préparé un joli programme. Mesdames et messieurs, ce soir, dès 20h30, nous vous proposons une soirée littéraire, des lectures divine, avec des auteurs divins, quelques notes de piano ou de guitare, profitez-en.
Oui, alors ne tapez pas sur votre radio ou votre ordinateur, non, vous êtes quand même toujours sur Canal B, la radio bretonne qui dépote, et surtout, eh bien, vous êtes dans Bon Jouir, et nous sommes toujours dimanche, et voilà, tout va bien, nous ne sommes pas en Belgique. Mais j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ce festival qui a tenu, eh bien, la semaine dernière, sa deuxième édition, le Love and Sex Festival à Namur. Alors, bon, après des reports, évidemment, vous vous en doutez, liés au Covid, c'est un tout petit festival, tout bébé festival sur le sexe, qui aime les défis fous, et son équipe compte quelques geeks notoires, et cette nouvelle perspective, eh bien, de pouvoir faire un festival en ligne leur a permis de continuer à exister, et puis leur a inspiré apparemment des fantaisies. Alors, vous pouvez retrouver sur leur site loveandsexfestival.org tout le détail, la vidéo en intégralité de ce que je vous ai passé en extrait. En tout cas, voilà, je trouvais ça assez sympa aussi de se dire que, eh bien, on partage tous et toutes de par le monde, en tout cas dans le monde francophone, eh bien, cet amour de la lecture érotique, par exemple, cet amour du sexe, cet amour de transmettre du plaisir autour de soi. Et c'est assez sympa de voir comment ça se fait ailleurs. Donc je vous invite vraiment à aller regarder sur leur site ce qui se fait à Namur en Belgique et puis peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine, on pourrait réussir à faire quelque chose ensemble.
Bonjour.
Sur Canal B.
They make love. The world has sex. Sex.
Avec grand plaisir.
Dans les années 70, les gens ne se préoccupaient pas de l'orgasme féminin. Non. Pas important. Mais en fait, c'est l'histoire du film. Le personnage de Linda Lovelace veut avoir un orgasme. Et donc, cela parle de femmes qui se mettent en quête d'éprouver du plaisir.
I mean, there should be more to sex than a lot of little tingles. There should be bells ringing, dams bursting, bombs going off, something.
Do you want to get off or do you want to wreck a city?
And please, be serious.
Sorry, sorry.
Gorge Profonde, c'est une comédie. C'est juste hilarant. Et c'était rare pour un film porno. Mais je dois dire aussi qu'on était tous époustouflés par les pipes.
Linda essaiera toute sa vie de sortir du monde du porno. Mais Gorge Profonde ne la quittera jamais. Ce que de jeunes actrices vivent aujourd'hui dans le porno, des carrières de quelques mois qui les marquent au fer rouge, elle, la première star du X, n'a jamais cessé de le dénoncer.
Ces extraits sont issus d'un documentaire que vous pouvez retrouver en ce moment sur Arte sur les 50 ans de la sortie du film Gorge Profonde. Voilà, je vous invite à aller le voir, c'est assez intéressant à la fois pour ce que ça raconte effectivement de la place de la pornographie dans cette société américaine des années 70, début 70, et puis aussi pour ce que ça ouvre comme lien, comme passerelle encore évidemment avec la pornographie que nous connaissons actuellement 50 ans après. Bon, maintenant, il est temps de retrouver Benjamin Bechler et la deuxième partie de sa librairie Foutraque avec la lecture encore d'un extrait de Guillaume Perrotte, La Remplaçante.
Sangle d'un god ceinture, sa soudaine virilité me provoque des frissons d'une autre dimension. Ma fébrilité est si forte que j'ai du mal à respirer. Cette bite en latex enfièvre mon esprit torturé. Je pense à l'interdit qui auréole toujours de soufre cet acte agnostique, comme si la liberté sexuelle n'était pas encore tout à fait derrière nous. Dans l'immédiat, mon sexe érigé luit de salive alors qu'Alice enduit de gel le gland du god. Je relève instinctivement les jambes. Retour au stade anal. Elle me sodomise d'une poussée brutale. Mon anus se dilate dans un bruit de succion. Elle m'enfonce un autre god dans la bouche pour étouffer mon cri. J'adresse un regard involontaire à l'objectif impavide de la caméra. Elle retire le god de ma bouche pour m'embrasser avec frénésie. Sa langue atténue ma douleur interne. Mon érection défaille. Je ne suis pas coutumier d'un tel plaisir. Mon orgasme est plus cérébral que rectal. Alice m'évoque alors son troisième amant, celui qui l'a initié à la soumission, un ingénieur du son. Son visage devient subitement obéissant. Elle baisse les yeux et me demande d'une petite voix de l'insulter, moi qui garde encore à l'esprit l'image de son visage autoritaire, allant et venant au-dessus du mien, ainsi que la douleur de son puissant va-et-vient qui irradie toujours au fond de mes entrailles. Une nouvelle facette d'Alice que je découvre post-mortem. Quand je pense que nous aurions pu tellement nous amuser de son vivant, quel gâchis. Mais je ne suis pas mécontent de retrouver par le biais de sa singulière demande un peu de ma virilité. Puisqu'elle y tient tant, je l'insulte. Je rougis moi-même de la verdeur de mes injures. Je serais pourtant bien malhonnête de nier que je suis de nouveau prêt pour un nouveau round charnel. Cette Alice-là m'oblige à plonger dans le limon de mes pulsions. Elle m'attrape timidement par la queue et me conduit dans la salle de bain. Elle enjambe la baignoire et s'agenouille à l'intérieur. Sa docilité est celle d'une poupée gonflable. D'une voix blanche, elle me demande d'uriner sur son corps offert. Encore faut-il que je débande un minimum. J'y parviens au prix d'un gros effort de concentration. Je dirige le jet sur son visage blême. Ma pisse a un peu la couleur et l'odeur des whisky que j'ai bu tout à l'heure. Que sait qu'elle m'avale. Retour dans la chambre après ces deux douches, la dorée et la normale. Elle me parle de son dernier amant, Julius, un fan qui l'aurait abordé à son dernier concert à la Cigale et lui a fait découvrir le plaisir anal avec sa queue d'animal. Elle m'expose son anus, à l'intérieur duquel je vide un demi-tube de lubrifiant. J'enfonce un doigt, deux, trois. Je les retire et lubrifie l'extrémité, ma cassard du mastar en latex, le 28 sur 6. Je présente le gland brillant et suintant à l'entrée de sa rosette. Il s'introduit sans problème. Alice gémit à peine. J'enfonce graduellement les centimètres de cette bête en caoutchouc dans son trou dilaté. Son rectum a désormais l'élasticité d'un vagin de cougar. Elle avale les 20 premiers centimètres. Une vraie gueule d'anaconda, son petit orifice. Elle râle maintenant, d'un douloureux bonheur. Quand je retire le god, son trou reste béant. Je réintroduis mes trois doigts, puis les deux autres. Cette fois, c'est ma main entière qui disparaît dans son anus. Elle m'avale jusqu'au poignet. Magique. Cette Alice doit être la réincarnation d'Oudimi. Ma main va et vient dans son canal infernal. Mon fils te l'a fait souffrir de plaisir. Elle me signale qu'elle a envie de chier. Et après, je suis dans une telle ivresse libidinale que je l'encourage à se lâcher. Nous sommes allés trop loin pour nous arrêter en si bon chemin. Je retire ma main en douceur. Son trou de balle est si ouvert que je pourrais l'enculer sans même entrer en contact avec ses parois. C'est alors qu'une petite tête sombre se présente, sidérant. Si ce n'est que je suis au-delà de tout depuis son retour de l'au-delà. Je suis toutefois presque aussi ému qu'un futur papa au moment où elle expulse un étron qui est la démention du pénis du métis. J'éjacule. Je fume une cigarette au salon, encore fébrile, à peine remis de mes dernières émotions fortes. Alice est en train de redevenir quelqu'un d'autre dans la salle de bain. Plus qu'une nuit, elle me quittera à tout jamais, me laissera seule avec mes ultimes souvenirs scabreux de nous deux, désormais immortalisés sur cette vidéo porno ultra perso. Vidéo que je vais sans doute passer la nuit à visionner tout en me masturbant non-stop. J'entends la porte d'entrée se refermer en douceur. Alice est repartie. Je suis de nouveau veuf. Allô, Camille ?
C'est terminé pour ce soir, ça passe vite, une heure. Et dites-moi, ce qui passe surtout vite, on peut dire, eh bien, ce sont aussi les semaines, les mois et puis les années. Voilà, nous allons dans deux émissions fêter la 100e. Alors 100 ans, c'est pas mal, 100 ans, ça peut être très court, tout dépend de l'échelle avec laquelle on regarde les choses. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir fêter la 100e de Bon Jouir. Et à ce titre, j'aimerais que cette émission soit la vôtre, une émission où l'on entend vos mots, vos pensées, votre petit point en route, voilà, sur votre sexualité et votre rapport au plaisir. Alors je vous invite dès à présent à nous envoyer soit des messages écrits sur bonjouir.radio@gmail.com que nous partagerons ensuite avec toutes les auditrices et auditeurs, soit eh bien à nous envoyer des messages vocaux. Oui, c'est pas très compliqué maintenant avec votre smartphone, vous enregistrez avec votre dictaphone un petit message vocal style message de répondeur et puis vous nous l'envoyez par mail par exemple. Ou bien vous pouvez aussi nous envoyer des vocaux sur Instagram et la page Facebook de l'émission en MP. Je serais vraiment très heureuse d'avoir vos voix à vous pour cette 100e émission. D'ici là, on se retrouve déjà dimanche prochain à 23h pour la 99e émission et je vous souhaite comme d'habitude une foutrement belle semaine sur Canal B.